gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Et à tous, bienvenue à la causerie, tous les dimanches soirs de 22h à 23h, sur Radio Canu, donc 102.2, et également sur internet, direct, sur radiocanu.org. Vous pouvez nous contacter, je le fais direct, non, j'ai présenté les gens autour de la table, voilà, je vois des regards comme ça. Donc, nous avons ce soir Fab.
Salut.
Jean-Yves.
Bonsoir.
Jonathan.
Salut.
Et à la technique, Clara.
Bonsoir.
Et Stan qui nous fait une entrée, une...
Bonsoir.
L'ouverture fracassante.
Une ouverture fracassante.
Vous pouvez nous contacter, enfin laisser des commentaires sur blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie. Également par mail.
Mais oui, par mail à lacauseriecanu@gmail.com.
Et si vous allez faire un tour là où on ne fait pas un tour, sur Facebook.
Ok, si tu veux.
Vous pouvez également nous trouver donc sur Facebook. La causerie.
Ouais. Voilà. Alors, la causerie Canu. Parce la qu'il y a Canu. Plusieurs pages la causerie.
Ouais. Et il y a un restaurant, voilà. Un centre religieux, tout ça, c'est pas nous.
On ne livre pas après 22h.
Voilà. Et donc, pour commencer, si je ne dis pas de bêtises, c'est Fab.
C'est ça.
Qui va nous parler des dessous de la Saint-Valentin.
C'est ça, parce que vous savez que c'était la Saint-Valentin, hein, on vous l'a pas assez dit, je pense, cette semaine, hein, je l'avais pas entendu, ça fait pas 3 semaines qu'on vous prévient. Attention, c'est bientôt la Saint-Valentin.
La Saint quoi ?
Et Valentin.
Ok.
Alors, on rappellera pas qu'au départ, Valentin, c'était un mec bizarre et qu'il faudrait pas trop lire son histoire avant de trouver le mec cool. Mais ça, je vais pas la faire.
D'accord.
Mais je vous invite à aller chercher qui était Valentin et la Saint-Valentin. Et donc, du coup, voilà, je voulais vous parler plutôt de la fête et du côté ultra commercial de cette fête, évidemment. Parce que c'est ça qui, moi, m'a le plus... Enfin, pas le plus surpris, parce que ça fait quand même quelques années que ça dure, mais je trouve que cette année, on est quand même... On arrive... On voit qu'on monte encore et encore d'un cran en permanence. Alors on passera sur les publicités sexistes habituelles de la Saint-Valentin, où évidemment il faut offrir une machine à laver à madame, et si possible...
Une centrale vapeur, centrale sinon c'est vapeur, pas mal aussi.
Voilà. Ou bien sûr, pour lui faire plaisir, offrez-lui un spa, parce qu'elle est tellement fatiguée, elle s'occupe des gosses, donc il faudrait quand même qu'elle aille se reposer. Voilà, donc on voit tout le côté très sexiste des pubs, mais c'est pas ce qui m'a le plus interpellé, c'est le fait que la première chose qui est offerte à la Saint-Valentin, vous le savez, on en a parlé pendant la prépa, c'est... Des roses.
Des fleurs, oui.
Eh oui, les fleurs et en particulier les roses. Alors, je sais bien que le réchauffement climatique est en cours, mais alors, jusqu'à preuve du contraire, les roses au mois de février en France, c'est plutôt rare. Enfin, voilà, voire même, ça n'existe pas, en fait. Il y a quelques roses de glace, comme on appelle ça, mais ce n'est pas des vraies roses, en fait. Donc, du coup, il faut bien qu'elles viennent de quelque part, ces chères fleurs rouges qu'on offre, car c'est la rose rouge qui est la principale. Hein, voilà, donc, elles viennent d'où, d'après vous ? Hein ? Bah, oh, vous le savez.
Bah, là où en février il fait bon.
Et, ouais. Et donc elles viennent du sud. Ouais. Voilà. Et en fait, en plus particulièrement, elles viennent du Kenya. Alors c'est là que ça devient assez drôle et glauque, hein, parce que c'est toujours comme ça dans la causerie. Alors, drôle parce qu'en fait on se dit que ben, quand même on a fait pousser des roses au Kenya, qu'on a envoyées par avion pour qu'elles arrivent à Rungis, parce qu'elles sont toutes centralisées au marché aux fleurs de Rungis, puis qu'elles soient redistribuées sur l'ensemble du territoire français. Donc vous imaginez déjà les petites roses à quel point elles ont beaucoup voyagé. Alors je vous rassure, elles sont bichonnées, elles voyagent à 4 degrés et elles sont bichonnées au taux d'humidité et aussi recouvertes d'une légère couche d'argon ou d'azote qui leur évite de se flétrir. Ah la rose, qu'est-ce qu'on ferait pas pour qu'elle tienne jusqu'au bouquet hein, quand même. Donc voilà.
Alors c'est l'argon ou l'azote qui sont si bons ?
Non, du tout. C'est des gaz inertes, ça sent rien, mais c'est juste que ça évite qu'elle s'oxyde. Vous voyez, on y met quand même les moyens. Alors, ce qui serait bien, par contre, ce serait qu'on mette les mêmes moyens pour les gens qui travaillent au Kenya pour faire ces roses. Sauf que c'est loin d'être le cas. Alors, je vais vous reprendre juste, je vous invite plutôt à aller sur le site d'Action Aid, qui est un groupement d'ONG et de syndicats qui, depuis des années, dénoncent les conditions de travail, notamment des travailleurs de la fleur, comme ils les appellent, au Kenya. Il faut savoir que c'est devenu le deuxième secteur d'exportation du Kenya, que donc du coup ça rapporte énormément d'argent. Certains estiment que la rose, enfin les fleurs et les roses en particulier, représentent jusqu'à 33% du PIB du Kenya, ce qui est quand même pas la loi, c'est pas le moindre des trucs. Alors ça a des impacts donc sur les gens qui travaillent, qui n'ont pas de droits syndicaux et qui sont généralement pas très très bien traités. Accessoirement aussi sur l'eau, parce que bien sûr il faut beaucoup d'eau pour faire des roses. Hein, pour ceux qui ont des rosiers, vous en rendez compte. Donc en fait il faut détourner de l'eau, c'est ce qui s'est passé. Donc ça a eu un double effet parce que le Kenya subit depuis 3 ans une sécheresse, non pas à cause de l'eau détournée, mais il y a en plus une sécheresse. Donc vous détournez l'eau, il y a une sécheresse. Et ben les éleveurs kényans, ils sont obligés maintenant d'aller sur les parcs nationaux pour chercher de l'eau, ces fameux parcs qui avaient été créés pour préserver la biodiversité du Kenya et accessoirement classé au patrimoine mondial de l'humanité. Vous voyez donc tout ça pour un bouquet de roses un 14 février. Hein, bon, mais je vais pas m'arrêter là parce que ce serait pas marrant. Alors on va continuer un petit peu sur ce qui s'offre. Deuxième chose les plus offertes à cette époque, ce sont donc les dessous. Eh oui, évidemment. Ce sont les dessous. Alors ça tombe très très bien parce que les dessous qui sont vendus en France sont soit made in China, soit made in Turkey, donc la Turquie. Et ce qui est intéressant, c'est donc cette petite histoire que nous racontent les syndicalistes turcs qui nous ont légèrement fait comprendre et connaître la vie de quelques ouvrières du sud de la Turquie qui, dans leur atelier, ont été invitées gentiment, disons avec des vigiles qui avaient des bâtons à rester dans les ateliers pendant 14 heures par jour, pendant 47 jours. Et ce, afin, sans week-end, hein, je précise, 47 jours d'affilée. Et ce, afin de tenir les délais pour pouvoir livrer pour la Saint-Valentin les dessous dont avaient besoin tous les gens qui allaient acheter un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Voilà.
Oui. Non, mais ça, c'est aussi la force du volontariat, tu vois, je veux dire.
Pas du tout forcé, le volontariat.
Évidemment.
Alors, on va continuer parce que troisième poste de dépense à la Saint-Valentin, le chocolat. Et oui, parce que vous savez que le chocolat, on offre des dessous à madame et du chocolat à monsieur, car monsieur peut grossir et madame doit être bien habillée. Donc, c'est un petit peu l'idée.
J'arrête d'avoir froid.
Donc voilà. Non, mais c'était pour la blague, parce que c'est un peu le sens des pubs, hein, quand même. Donc, du coup, du chocolat. Alors là, je suis désolé, hein, une ONG assez connue qui s'appelle Oxfam, qui dénonce les détournements financiers depuis des années, s'est alliée avec une autre ONG non moins connue, qui est Médecins Sans Frontières, et une troisième ONG, qui est toujours Action Aid, qui est donc cette ONG qui regroupe des syndicats, dont je vous parlais tout à l'heure, et d'autres ONG d'aide aux personnes. Et ils sont allés faire des audits en Côte d'Ivoire, premier fournisseur mondial du chocolat. Et ils ont découvert, chose très très étonnante, et vous savez, Monsieur Bolloré dit que c'est pas vrai, mais pourtant c'est vrai. En fait, oui, il y a entre 15 et 20% des travailleurs du chocolat qui sont des enfants. Et oui, c'est merveilleux. Voilà. Et ils ont fait du bon chocolat, parce que voilà, du chocolat pour tout le monde, pour Kinder et Nestlé et compagnie. Mais voilà, c'est pas pour culpabiliser que je raconte tout ça, c'est juste pour qu'on se rende compte que, bah, comme toute fête commerciale, il y a des conséquences à nos choix et à ce que l'on fait ici. Et voilà. Donc en fait, c'était juste pour rappeler ça. Je voulais aller aussi sur le diamant, mais bon, je me suis dit ça va faire beaucoup, mais je vais y aller quand même. Donc les mines de diamants, hein, les trois principales mines de diamants, dont celle du Kazakhstan, qui sont aujourd'hui donc toujours en activité. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors le Kazakhstan, grande démocratie devant Vladimir Poutine. Et du coup, en fait, ils avaient un petit problème de rentabilité, parce qu'ils se sont rendus compte que creuser des galeries à hauteur d'homme, ça coûtait cher. Donc ils se sont dit, on va faire comme ils faisaient en Europe au 19e siècle, on va autoriser les enfants à travailler à partir de l'âge de 7 ans, parce que c'est moins grand. Donc du coup, les galeries, il y a moins besoin de les faire hautes. voyez. Voilà. Donc, ce sont aussi, voilà. Parce que les diamants, c'est la quatrième dépense à la Saint-Valentin. Et puis, ben, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est cette nouveauté qui est sortie cette année. Enfin, depuis l'année dernière, j'ai cherché. C'est que la fête des amoureux est devenue la fête de l'amour. Voilà. Et là, on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait et tout? Pourquoi ils ont appelé ça la fête de l'amour? Eh ben, parce que la Saint-Valentin, ça suffisait pas, la fête des amoureux. D'abord, parce qu'il y a plein de gens qui
pas
sont.
Pas assez rentables.
Pas assez rentables. Il y a des gens qui sont célibataires. Déjà. Alors, ça, et voilà. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que bon, si on pouvait faire en sorte que la Saint-Valentin se transforme en Noël bis, ce serait bien. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il faut offrir des choses aux gens qui vous aiment ou que vous aimez. Les enfants aux parents, les parents aux enfants, les grands-parents aux parents et aux petits-enfants, et ainsi de suite. Comme ça, eh ben, à vos frères et à vos sœurs, à vos cousins, vos cousines, vos tatas, vos tontons. Enfin,
et les amis après, aussi, non, peut-être.
Alors, ils n'osent pas encore. Pour l'instant, ils ont beaucoup axé sur le familial. Ah. Je pense que l'année prochaine, on en viendra aux amis. La famille. Chaque chose en son temps.
Moi, je me demande juste si, à ce moment-là, tu vois, c'est bien adapté les sous-vêtements pour la famille.
Non mais là tu offriras plutôt du chocolat. Mais non mais c'était pour dire voilà. Et pourquoi en fait cette fête commerciale a été transformée? Alors j'ai quand même fait 2-3 recherches. Effectivement c'est conscient, ça vient des États-Unis. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'aux États-Unis ça s'appelle The Love Day, donc le jour de l'amour, et plus la Saint-Valentin. Vous voyez, il y a un petit glissement sémantique. Et c'est volontaire parce que effectivement les commerçants se sont rendus compte que ça rendait la fête beaucoup plus rentable. Et si vous regardez, et ça va nous ramener à ce qu'on avait déjà parlé dans la causerie, vous avez le Black Friday, qui est en général...
C'est fin novembre.
Ouais, fin novembre, Noël et la Saint-Valentin. Et ben vous avez là une espèce de triptyque de fêtes où il y a des choses qui se vendent.
Il y a le pré-Noël, il y a Noël, il y a après-Noël.
Voilà, c'est ça.
Il y a même une forme de cycle de vente tous les deux mois.
C'est ça, parce qu'après il y a la fête des mères.
Voilà.
Vous l'oubliez pas quand même, la fête des mères, elle est bientôt là, surtout si vous avez des enfants.
Entrecoupé de périodes de soldes,
oui.
En janvier, puis après en juin,
voilà.
On est bien.
Donc en fait, c'est une sorte de système de vente permanent et la Saint-Valentin devient une espèce de phare au milieu des autres pour être une période de consumérisme échevelé, comme on dit. Voilà. Alors il faut savoir que ça a été théorisé, c'est mieux, parce que thésaurisé, c'est bizarre. Théorisé par un monsieur, voilà, qui s'appelle Warren Buffett. Vous avez sûrement entendu parler de ce monsieur. Warren Buffett, qui est donc un multimilliardaire américain, un des 8 qui détient autant que 50% de la planète. Et en fait, lui, il a eu une théorie. Il a investi en fait dans le divertissement, le chocolat, les diamants et les dessous, enfin le vestimentaire, parce qu'en fait, il s'est dit, ces postes de dépenses-là vont avoir un pic au niveau boursier tous les mois de février, et c'est le moment où on pourra revendre les actions au plus haut. Donc en fait, même lui incitait les gens à miser sur cette nouvelle fête qui marche bien. Alors pour mémoire, la Saint-Valentin en France, ça a une cinquantaine d'années, hein, contrairement à ce qu'on croit, ça n'a pas toujours été là. C'est une importation purement américaine au départ, c'est arrivé en même temps que les GI, comme le chewing-gum.
Avant, c'était un village dans l'Ain.
Ouais, c'est ça, avant c'était un village dans l'Ain, c'est tout. Et donc du coup, cette fête a été importée, elle est partie au niveau mondial, elle a un très fort retentissement au Japon aussi, Japon après que les Américains aussi aient envahi le Japon, pardon, qu'ils aient gagné la guerre. Et donc en fait, on voit que c'est vraiment un truc très commercial et vraiment, vraiment poussé. Il faut savoir que c'est l'Union des fleuristes de France qui a instaurer la Saint-Valentin comme une fête dans le calendrier en France. C'est un peu comme la fête des grands-mères qui est le fête des chocolatiers, vous voyez. Donc il y a quand même des liens avec des corporations, comme on dit. Voilà, donc on voit bien qu'on n'est pas...
Ça serait tellement plus sympa de l'avoir vraiment la chose, tu vois. La fête des grands-mères sponsorisée par les chocolatiers.
Ouais, ouais.
Ça serait ouvert.
Ce serait honnête, quoi.
Ouais, moi, je trouve qu'ils ont mal visé leur consommateurs parce que le diabète est vachement plus élevé chez les personnes âgées.
C'est pas fou. Mais enfin, voilà, toujours est-il que c'était juste pour revenir un petit peu sur le fait que la Saint-Valentin, comme toutes les fêtes qui nous sont imposées, sont avant tout des fêtes consuméristes, ça on le savait, qui ont des impacts. C'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur ce qu'il y avait avant. Et on peut aussi faire le choix, et on a le droit de le faire, de ne pas subir ces fêtes-là et de se dire que ça ne sert à rien et de laisser couler, parce que c'est pas plus mal des fois. Et puis rappeler que l'amour vaut mieux que ce soit tous les jours, c'est un peu plus joyeux quand même que si c'est juste le 14 février. Puis on se met parce qu'il fait froid le 14 février, mais quand même quoi.
Voilà. Non, et puis, pardon, Je m'étouffe. Non, je me disais déjà en plus, enfin ça, je trouve qu'on rejoint de plus en plus en fait cette société qu'on avait un peu décrite avec Philippe Deschemin en fait,
oui.
Où vraiment au nord ou en tout cas dans les pays les riches, on consomme, on ne fait plus que ça, on construit plus grand chose, on ne fabrique plus grand chose. Par contre, on exploite ceux qui sont ailleurs et qui fabriquent pour que nous on puisse consommer. Je trouve que c'est toujours assez intéressant. Tu vois,
j'ai juste aussi, mais pas directement là-dessus. Je me disais qu'on est quand même dans une société assez flemmarde. On nous dit de plus en plus quel jour il faut faire quoi. Et on l'accepte de plus en plus, tu vois, la flemme est assez généralisée dans tout plein de secteurs. Mais même ça, en fait, on s'en rend compte que, bah oui, c'est là, il faudrait que je fasse un cadeau à ce moment-là. J'oublie pas, c'est marqué sur le calendrier. En plus, c'est facile.
Alors, je sais même pas si c'est de la flemme ou si c'est quand même ce truc de la pub, c'est-à-dire de créer.
C'est conditionné, en tout cas.
De créer le besoin, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le faire.
Mais je pense qu'il amène justement, enfin, on l'accepte parce qu'on a la flemme. Enfin, on a, ça y a, je sais pas.
L'œuf ou la poule, je ne sais pas. Voilà.
Et ben moi, j'opte pour le faisan. je sais pas pourquoi, mais comme ça. Voilà. Et est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Non. Et puis, on va peut-être pouvoir se mettre un petit peu de musique. Alors,
La Saint-Valentin, c'est comme la journée de la femme. Hein. À un moment donné, ça fait partie des sujets qu'on. L'amour, par exemple, et ça fait partie des sujets qu'on ne devrait pas aborder qu'une seule fois par an, mais bon. Voilà.
Et ben, c'est parti, musique. Et de retour dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu ou sur radiocanu.org. Et donc du coup, c'était, vous les avez reconnus, The Cambodian Space Project. Et oui, un nouvel album et ça vaut toujours le coup. Alors je le dis, ça ne peut s'acheter que sur Bandcamp car ils sont en autoproduction totale et qui vous envoient leur album directement du Cambodge. Et c'est Laisse tomber les filles, voilà. Parce que ils ont fait 5 ans de tournée et dans chaque pays où ils se sont arrêtés, ils ont piqué une petite chanson yéyé ou un peu du folklore comme ils disent pour la retransformer en cambodgien, voilà, et ça donne un album assez space où il y a de la country, il y a du yéyé, il y a un peu de tout et c'est vraiment bien. Voilà. Et Jean-Yves, c'est à toi. Et tu voulais nous parler de la condamnation, une sorte de retour du blasphème un peu planqué, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. En fait, je vais vous parler de la cour d'appel de Paris qui a confirmé donc mercredi 15 février la condamnation de l'ancienne Femen. Elle en fait plus partie, hein. Héloïse Bouton, a un mois de prison avec sursis pour une action qu'elle avait faite en 2013 dans l'église de la Madeleine à Paris. Et son avocat dénonce justement le retour du délit de blasphème. Tiens, on avait parlé de la mort du délit de blasphème en Alsace-Moselle, mais comme quoi...
Chasse-le par la porte, il revient par la fenêtre.
C'est un peu ça. Alors, je voulais vous rappeler quand même l'action, histoire que toutes et tous, on saisisse bien ce qui s'est passé. Donc, c'était le 20 décembre 2013 au matin. C'était donc Héloïse Beton qui s'est dirigée torse nu vers l'hôtel de l'église, donc... de la Madeleine, je le répète, face à une dizaine de personnes qui étaient dans l'église, et il y avait juste encore une chorale qui répétait. C'était après l'office, etc. Enfin, il y avait peu de monde. Et elle portait sur le dos l'inscription « Christmas is cancelled », donc « Noël est annulé », et sur le ventre « 344e salope ». Et c'était donc en référence au manifeste des 343 femmes qui avaient appelé en 1971 à la dépénalisation de l'avortement. Et donc, et elle avait aussi, donc Héloïse Beton, elle avait aussi déposé des morceaux de foie de veau censés représenter l'avortement de l'enfant Jésus. L'action, alors elle n'avait pas duré 10 ans, hein, ça dure souvent, c'est une action très rapide. Donc ça a duré 2 minutes, elle a ensuite quitté l'église dans le calme. Il y avait évidemment des photographes et pas mal sur place. Donc l'idée, c'est pas du tout de rediscuter du fait. Enfin, on sait ce qui s'est passé. Enfin, elle assume pleinement. Et donc l'objectif quand même de cette action, c'était quand même de dénoncer les prises de position de l'Église dans le débat sur le droit à l'avortement. C'était à l'époque où des restrictions étaient envisagées en Espagne. Donc c'était aussi une notion, moi c'est ça que j'aime bien aussi, d'internationalisme, que les luttes là-bas sont aussi les nôtres et les nôtres sont aussi celles des autres. Donc voilà, et donc l'église de la Madeleine, par l'intermédiaire de son curé, eh ben, avait décidé de porter plainte pour exhibition sexuelle. Et la justice a donc retenu ce
chef d'accusation.
Merci.
C'était à cause du foie de veau, je suppose.
Évidemment. Il déteste le foie de veau à la Madeleine. Alors, si aussi, alors, parce qu'en cherchant tout ça, on retombe sur des réactions qu'il y a eu à l'époque. Et il y en a une qui était très belle et qui me rappelle tellement cette gauche un peu religieuse et qu'on retrouve aussi chez d'autres rebelles religiophiles. Hein. Mais là, c'était Bertrand Delanoë. Hein. Il est juste du PS, hein, donc pas tellement rebelle que ça, mais qui à l'époque était maire de Paris et il avait publié un communiqué. Après avoir découvert, entre guillemets, attention, avec surprise et tristesse, la nouvelle provocation des femmes à l'intérieur de l'église de la Madeleine, je réprouve un acte qui caricature le beau combat de l'égalité femmes-hommes, sème la discorde dans la société parisienne et choque inutilement de nombreux croyants. Voilà.
J'ai jamais aimé ce bonhomme.
Non, et puis en plus, il y a des choses, enfin, le beau combat de l'égalité. Enfin, tu sais, si on pouvait ne pas mener certaines luttes, ce serait cool, quoi. Donc, il n'y a pas une beauté dans la lutte, quoi. Enfin,
non.
Il faut la mener parce qu'il faut la mener, quoi.
Et c'est très drôle, d'ailleurs, d'arriver à mettre dans la même phrase Église de la Madeleine et égalité homme-femme quand on sait qui était Madeleine dans la Bible. Voilà.
Ouais. Et alors, je vous fais un peu un rappel, mais je trouve que c'est. Enfin, il faut vraiment qu'on saisisse un peu tout, parce que. Donc, le rappel du procès, hein, c'est génial. Parce que l'avocat de la partie civile, hein, qui s'appelait. Enfin, oui, qui s'appelle toujours, il n'est pas mort. Laurent Delvolvé, pour lui, il n'y avait pas de doute, la qualification d'exhibition sexuelle se justifie par la nature même des fémènes. Il dit ce sont des sextrémistes, c'est ce qu'elles revendiquent. Hein, et il disait ce qu'elles revendiquent dans leur manifeste. Et il rappelle le slogan Mon corps est mon arme, et ainsi estiment-ils que leur combat est par nature sexuel. Je savais pas.
Le lien entre l'arme et le sexe est étrange. Parce que
oui,
ton corps peut être ton arme sans que ce soit sexuel. Quand
oui,
même.
Et ton corps peut être une arme sans être sexuel.
Ouais, c'est ça, oui. Enfin, ou alors
mais justement, je vais développer ça un petit peu. Et
les judokas sont très sexuels, a priori.
C'est ça. Et alors. Pour l'avocat, effectivement, les seins doivent être également considérés comme sexuels. Parce qu'il a sorti un argument qui ensuite a été repris par le procureur. C'est peut-être le plus gros problème. C'est que le sein est sexuel, car quand un agresseur touche la poitrine d'une femme, c'est qualifié d'agression sexuelle. Alors, c'est quand même un argument qui, à l'époque, avait fait un peu, laisser halluciner une membre du collectif féministe Les Effrontés, qui avait dit, à l'époque, si quelqu'un, met un doigt ou autre chose dans ma bouche, cela va être une agression sexuelle. Et pourtant, je veux avoir le droit de montrer ma bouche. C'est peut-être très, très absurde comme exemple, mais bon, il faut peut-être leur réexpliquer des fois les bases.
Oui, t'as réexpliqué ce qu'est une agression. Quand même.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, hein, les parties, enfin, la partie civile et le procureur avaient un peu des trucs qui se ressemblaient quand même assez étrangement, hein, et ils marchaient un petit peu sur des œufs. Et alors, ils entendaient bien évidemment que toute poitrine n'est pas forcément de l'exhibition sexuelle. Cela dépend aussi du lieu et des circonstances.
Comment ça ?
Bah oui. Parce que je redonne le nom de cet avocat de la partie civile, hein, Laurent Delvolvé, il juge les lieux de culte intouchables. Parce que, je le cite, comme une école ou un tribunal, à l'entrée de l'église de la Madeleine, une tenue correcte est exigée, il le rappelle, et on doit du respect à l'école, on doit du respect à la justice, on doit être respectueux des lieux de culte. Cela en va du principe de la laïcité. Mmh. Attendez, j'ai pas fini, la dernière est encore meilleure. Il n'y a pas de liberté d'expression dans un lieu de culte.
Ah bah moi c'est clair.
Voilà.
Eh ben, 1900,
non mais au moins il est honnête.
Au revoir.
Non mais il est honnête.
Ça, ah bah il est honnête, et c'est pour ça que je trouvais qu'il fallait redonner un peu tous les arguments qui ont été donnés à ce moment-là dans le procès.
Par contre, je voudrais rappeler à ce monsieur que l'église de la Madeleine à Paris a été classée monument historique sous un certain ministre qui est Jacques Lang, qui a fait ça pour qu'on puisse, avec l'argent des impôts, retaper des monuments et des lieux de culte. Alors j'ai envie de dire à cet avocat que quand mes impôts payent quelque chose, j'ai quand même le droit d'aller y faire un tour, même si je suis pas très très gentil.
Et du coup, attends, si on paye l'entretien des plages et qu'on a le droit d'y aller seins nus, que malgré 1905, pardon, pas 1901, eh ben on paye aussi l'entretien des églises, alors on peut y aller seins nus.
Eh ben il dit que non, lui.
Eh ben lui, il dit que non.
Oui, mais c'est pas la loi.
Et surtout, c'est ça, c'est ce qu'il sous-entend, c'est-à-dire que si ça avait été en dehors de l'église de la Madeleine, en fait, il y aurait pas eu de tribunal. Donc voilà, et alors à l'époque déjà, l'avocat de... Alors je crois qu'elle a changé entre-temps. Hein, Déloïse Bouton, en fait, il disait « On veut servir d'une infraction pénale pour pénaliser une infraction cultuelle, hein, qui relève du religieux, qui n'existe pas. » Il dit « En parlant d'atteinte à la foi et à la religion, c'est le blasphème qui se lit entre les lignes et ça relève, selon lui, du tribunal ecclésiastique. » Et c'est ce qu'il rappelait d'ailleurs aussi, c'était dans d'autres actions des fémènes, par exemple celle à Notre-Dame de Paris, là, et bien il n'y a jamais eu de poursuite pour exhibition sexuelle.
Oui, mais il n'y avait pas de foie de veau.
C'est peut-être le foie de veau. Et donc à l'époque, déjà, le procureur, en fait, il avait requis entre 3 et 4 mois de prison avec sursis et une amende de 1500 balles. Ok ? Donc. On revient à aujourd'hui, enfin aujourd'hui au 15 février plus précisément, et suite au rendu au jugement qui a été rendu, Héloïse Botton a juste dit c'est parce que c'était dans une église en fait qu'elle a été condamnée, c'est pas autre chose, et justement pour elle disait c'est un procès clairement déguisé pour blasphème et qu'elle disait que le sursis qui lui pèse c'est pour la faire taire, parce que finalement effectivement dès que t'as un sursis, et ben t'apprends un petit peu à fermer ta gueule, parce que sinon tu sais que la prochaine fois, eh ben, ce sera du ferme. Et que la maison qu'on appelle prison, c'est jamais vraiment sympa, en fait. Hein. Donc voilà, et pour son avocat, pour lui, c'est un procès pour blasphème qui est même pas déguisé, en fait. parce que voilà, enfin, c'est très clair. Et il disait que justement, sa cliente, donc, avait immédiatement formé un pourvoi en cassation.
C'est assez courageux de sa part, d'ailleurs.
Ouais. Et sur ça, effectivement, il y a les fémènes aussi qui ont réagi, même si Héloïse Bouton, elle y est plus aujourd'hui. Je pense que c'était quand même la moindre des choses quand même d'apporter son soutien à cette femme aujourd'hui. Et donc les fémènes ont rappelé sur leur compte d'un réseau social que la dernière condamnation en France pour une poitrine nue remontait à 1965. C'est sympa, hein, revenir 50 ans en arrière. Parce qu'effectivement, il y a une jurisprudence qui date de cette époque-là. L'avocat de la partie civile s'en était déjà servi lors du procès, et en fait cet arrêt de la cour de cassation de 65 avait condamné une femme pour avoir joué topless, donc seins nus, au ping-pong sur la Croisette à Cannes. Et dans cette affaire de jeune femme condamnée pour avoir joué au ping-pong dévêtue, ce n'est pas les seins nus qui ont été directement incriminés, mais leur mouvement. Non,
c'est
mais
horrible. Enfin, des trucs... Non, mais c'est d'une stupidité. On atteint un niveau là, bon, je sais pas.
Non, mais ça confirme tout à fait la théorie de Bourdieu, comme quoi les accessoires que les hommes ont créés pour les femmes sont uniquement destinés à limiter leurs mouvements, y compris ceux des nénés, quoi.
C'est ça.
Là, pour le coup, c'est.
Ah bah, t'es en plein dedans.
Alors, moi, j'ai juste envie de dire, c'est pas parce que ça vous excite qu'on y peut quelque chose. Voilà.
Et alors donc effectivement là c'est un petit rappel, mais il y a plusieurs militantes qui ont effectivement été poursuivies, mais elles ont toujours été relaxées en fait. Et même le 12 janvier 2017, il y a Yana Zdanova, j'espère que je décorche pas trop son nom, qui a été une première fémène condamnée pour exhibition sexuelle, qui a en fait été relaxée. Donc ça c'était donc le 12 janvier, mais quand même, le parquet général a formé un pourvoi en cassation. Hein, et elle a quand même été condamnée à 600 balles d'amende. Alors elle, son action, c'était à l'époque qu'elle avait pris un pieu et avait défoncé la statue de Vladimir Poutine au musée Grévin. Donc la thune qu'il lui demande... Voilà,
c'est pour les dégradations.
Ouais, c'est pour les dégradations, en fait.
En même temps, c'était pas con comme action.
Non. Et alors, dans son arrêt, en fait, la cour a jugé que l'exposition d'un torse nu de femme, je cite, « en dehors de tout élément intentionnel de nature sexuelle, ne peut recouvrir la qualification d'exhibition sexuelle. »
Ben, heureusement.
Ouais.
Qu'ils ont rappelé ça.
Effectivement, heureusement. Et il y avait aussi trois autres fémènes qui, à Lille, ont été relaxées dès la première instance pour une action qu'elles avaient faite lors de l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn, en fait, lors du procès de l'affaire dite du Carlton. Donc voilà. Et à côté de ça, je suis tombé sur un article écrit par une féministe. Je pourrais pas vous dire exactement sa tendance, elle est chef d'entreprise je crois, mais à côté de ça, enfin, elle veut vraiment essayer de foutre un peu les pieds dans le plat et pour dire il faut qu'on débatte parce que il faut qu'on avance quoi, il y a rien qui a avancé, enfin. Et donc son article revenait effectivement sur Héloïse Bouton en disant que elle s'est quand même battue sans relâche parce que déjà c'était pour dénoncer, on va dire, les failles de forme du dossier, parce que on a pu le voir, c'est quand même un petit peu foireux ce dossier au départ. Et mais aussi selon cette femme, pour faire entendre deux messages fondamentaux. Et je vais carrément vous relire ce qu'elle a écrit parce que je trouve qu'il y a, enfin, elle dit tout. Donc le premier pour elle des messages fondamentaux, c'est que la sexualisation d'office des seins des femmes constitue une asymétrie de traitement entre femmes et hommes susceptibles de représenter une véritable menace sur les principes d'égalité entre les sexes et de liberté des femmes à disposer de leur corps. Car en effet, toujours selon elle, pourquoi un homme ne craint rien ni ne dérange personne quand il est torse nu alors que c'est d'emblée perçu comme une provocation sexuelle chez une femme ? À quoi cela tient, elle continue, demande la femme sans poitrine que je suis, pourquoi mon buste plus plat que celui de nombreux hommes est concupiscent par nature? Qui d'autre que moi en a décidé et veut que je réserve la vue de mes seins aux personnes avec qui je fais l'amour et sous certaines conditions à un public réjoui de me voir enceinte toute à l'enfant que je nourris? Et pour elle, le deuxième message, c'est que Héloïse prolonge le premier, c'est-à-dire sexualiser d'emblée et collectivement les seins des femmes, c'est les en déposséder. C'est leur interdire d'en faire ce qu'elles veulent, y compris et surtout de les mettre en scène et en action pour des causes politiques. Et c'est ce qu'elle rappelle, c'est une chose qui est permis, hein, que ce soit aux men masculinistes comme aux intermittents du spectacle quand ils reçoivent la ministre qui s'occupe d'eux. Et là, ça dérange pas la nudité. Donc, et c'est limiter leur exposition à quelques fonctions validées par la société, c'est-à-dire faire bander les hommes et allaiter les nourrissons, et aussi vendre un petit peu, quand même beaucoup, même du merdier. Parce qu'elle continue, car oui, le sein nu ne pose aucun problème quand il est un argument commercial affiché sur les abribus, dégueulé sur les écrans et étalé sur papier glacé pour... Enfin, on a plein de produits, hein, que ce soit des bagnoles, du café, du parfum, enfin des fringues, on a tout. Hein.
D'ailleurs, le jour de la condamnation, Playboy annonçait qu'il remettait des femmes nues dans leur magazine.
Bah ouais, mais tu...
J'ai grillé.
Ah, tu grilles toute ma... Ouais, je vais rentrer. Hein. Non, je déconne. Vous allez me supporter jusqu'à 23h. Et donc, c'est ce qu'elle continue justement là-dessus. Elle dit ironiquement, le même jour, eh ben on annonçait la la condamnation en appel des Louise Bouton, que les meufs à poil, je reprends ces mots, hein, reviennent dans Playboy. La revue pour mec qui entend se faire passer comme son cousin français qui s'appelle lui, pour un magazine chic de société libérale et détendue, promoteur d'idées progressistes et de culture cool smart, il y a des trucs que je comprends même pas, et qui revient, donc Playboy, hein, sur ses orientations éditoriales prises il y a un an pour moderniser le journal, et à l'époque ils avaient renoncé à la nudité féminine prête à palucher, comme elle dit l'auteur de cet article. Et en fait, là, je vous cite l'héritier du fondateur de Playboy, hein, Cooper Hefner. On connaît un autre Hefner.
Le fils de Hugh.
C'est ça.
Le neveu, je sais plus.
Et il dit « Je suis le premier à concéder que notre représentation de la nudité était datée. Mais nous avons fait une erreur en tirant totalement un trait dessus. Le problème, c'est pas la nudité. La nudité n'est jamais un problème. Aujourd'hui, nous retrouvons notre identité et nous la revendiquons. » Et elle continue, elle dit « La nudité, jamais un problème. » T'as raison, Cooper, la nudité n'est jamais un problème quand il s'agit de relancer les activités de la régie pub de ton organe de presse. Et elle continue justement en disant que ce même jour, en fait, les commentateurs et commentatrices ne s'y trompent pas, parce que même Capital titrait « Playboy, le retour des femmes nues, boostera-t-il les ventes ?» Tandis que les Échos, 20 minutes, Le Point et d'autres analyses en toute rationalité utilitariste, mais non sans sourire en coin et fourmion frisante, que le revirement de ligne du journal aurait à voir avec sa prochaine session. Sous-entendu, il faut bien redéshabiller la mariée avant de l'aller mettre à l'étal du marché.
Waouh ! Non mais juste, en 3 minutes, on est redevenus des objets et puis je trouve que la pub gratuite dans les journaux d'information, ça, c'est le génie commercial.
C'est ça. Alors je continue et je vais essayer de faire au plus vite. Et elle disait donc qu'effectivement la presse n'allait jamais à une contradiction près, en fait, parce qu'elle se cachait à peine d'être amusée, parce que la nudité quand même des femmes, ça reste quand même un sacré argument de vente. C'est quand même vachement bien. Et que les arguments de l'avocat du curé de la Madeleine comme parole d'évangile, considérant l'évidence du bon sens que la justice est actée mercredi, qu'il y a des choses qui ne se font pas quand on est une femme et dans une église. Car oui, non contente d'avoir dégradé l'action politique d'une femme en la confondant avec le geste obscène d'un pervers pépère, genre un ministre ou je sais plus qui se paluche dans un Conforama par exemple. Mince, je me suis perdu. Et que oui, donc, et de poser en principe que donc les seins des femmes sont donc évidemment des organes sexuels, hein. Et que elle dit par contre, ce qui fait surtout, c'est que ça ouvre tranquillement la voie au retour du délit de blasphème. Parce qu'elle dit, c'est bien la nature du lieu dans lequel son action a été menée qui a apporté la décision de la condamner. Et elle revient sur la fémène dont je vous ai cité l'exemple avant, et elle termine en disant que mais dans un lieu de culte, ce n'est pas pareil. Dans le pays qui n'a que sa laïcité à la bouche, quand il faut accessoiriser les valeurs démocratiques et de l'égalité sa haine des immigrés, l'Église catholique, incessamment en lutte contre les lois de la République, en premier lieu l'IVG, n'oublions pas aussi le mariage pour toutes et tous, eh ben elle peut forcément toujours compter sur une justice d'exception. Donc voilà, c'était un peu pour, je trouve, resituer toutes ces choses-là, c'est-à-dire que la nudité pose des fois problème, mais selon les lieux, et que effectivement, je pense que cette condamnation ressemble quand même beaucoup, ouais, à un délit de blasphème, parce que effectivement, toutes les autres ont été relaxées dans d'autres lieux, et que là, on revient à des choses qui sont quand même assez terribles et assez dégueulasses. Donc voilà.
Vas-y.
Ouais, moi j'ai une question. Et si un homme était allé dans l'église en disant « Je ne suis pas un objet, seins nus, et parce que oui, messieurs, vous avez des seins. » Et qu'il avait posé un foie de veau sur l'autel, est-ce qu'on l'aurait pris pour le Christ ?
Je ne pense pas. Mais parce que justement, c'est ce qu'elle dit. C'est qu'il y en a qui ont des actions comme ça. Hein. C'est-à-dire, les homens, c'est vraiment un truc masculiniste. Enfin, c'est les mecs qui montent sur les grues. Enfin, c'est un peu.
Hyper dégueulasse.
Eux le font torse nu, en fait. Et ils n'ont jamais eu de soucis.
Ouais,
jamais.
Moi, j'ai une proposition à faire aux auditeurs.
plus qu'aux auditrices. Si ça vous tente, lacausericanu@gmail.com, si vous êtes dans, vers Lyon, et on va peut-être tenter de se faire une petite idée d'aller se foutre torse nu dans la cathédrale Saint-Jean ou Fourvière, je sais pas, puis voir ce que ça donne. Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que, après tout, prenons les choses par l'absurde et allons au bout de la bêtise de cet avocat et de la bêtise de cette décision. Et moi, je, voilà. J'assume parfaitement ce que je viens de dire, mais lacausericanu@gmail.com. Voilà.
Et ben voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres réactions.
Juste parce qu'on en a parlé pendant la musique tout à l'heure et que je pense que ça rejoint bien le sujet. C'est-à-dire que finalement, c'est tellement facile de taper sur les femmes, surtout quand c'est elles qui sont sous les projecteurs. Et pour faire le parallèle avec la Saint-Valentin, dont tu parlais tout à l'heure, Fab, tu disais, Jean-Yves, que ça n'empêchait pas les femmes de mourir sous les coups de...
Ben oui, parce qu'en fait, le jour de la Saint-Valentin, il y avait une action en fait, qui a été menée par un collectif, un collectif féministe en fait, pour dire qu'effectivement, les violences... c'est surtout, en fait, c'était pour dénoncer ce que dans les médias, on appelle les crimes passionnels. Alors qu'en fait, ce ne sont que des violences du patriarcat. Ce sont des crimes, pardon, du patriarcat. Et que ce n'est pas des crimes passionnels, en fait. La passion, elle ne doit pas vous amener à ça, en fait. C'est le pouvoir et la possession qui vous amènent à ça, quoi. Donc voilà, effectivement, les femmes, en fait, c'est soit vierges, soit salopes, mais toujours au service des hommes, en fait, quoi. C'est surtout ça, je crois.
C'est le message de la Saint-Valentin et de ce jugement de merde.
C'est ça.
Eh ben voilà.
Et ben alors, on passe à la musique. Oh que c'est beau. Et on vient de s'écouter Alien du groupe Die Antwoord, s'il vous plaît. Et pas Die Antwoord. Non mais.
Die Antwoord.
Antwoord. Antwoord. Et donc vous êtes toujours dans la causerie hein, sur Radio Canu. J'espère que vous vous en êtes rendu compte. C'est toujours au 102.2 sur Lyon et sa région. Et on continue avec Jonathan,
bah ouais,
qui a un petit billet d'humeur.
Ouais, un billet. Bah, c'est plutôt doux.
Ouais.
Finalement, par rapport à... Non, mais parce que c'est vrai que donc, depuis que je fais des chroniques à la causerie, il y a finalement un message général, même si j'aime pas trop les généralités qui se dégagent, qui est plutôt de l'ordre de la tolérance et voilà, et du fait de respecter l'individualité de chacun et d'essayer de se développer et de combattre finalement l'ineptie et le rejet en général. Et donc, là, j'ai décidé d'arrêter de regarder les choses par petits sujets, mais de proposer quelque chose d'un peu plus global. Voilà. Donc, je vais vous lire mon petit billet. Donc, le contexte politique mondial actuel, les jeux politiques qui n'ont plus pas de sens, ont-ils eu un jour ? L'ignorance volontaire au profit du profit, tout cela me pousse à m'exprimer. C'est dommage que ce soit dans le retranchement que l'humain soit le plus efficace, parce que finalement c'est dans mes retranchements que je parle. Mais rassurez-vous, il y a des solutions. C'est une proposition de choix que je vais faire dans ce billet, une proposition de choix pour l'humanité, donc... faut que je la fasse. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Voilà. Non, trêve d'humour. Depuis quelque temps, il me semble qu'une partie des individus se dresse ensemble contre la connerie humaine, de manière générale, et qu'il semble aussi qu'une autre partie des individus se dresse ensemble pour la protéger. Quant à ceux qui ne se dressent pas, que peut-on en dire ? Subissent-ils ou cautionnent-ils cette connerie ? Eh bien, je ne sais pas. Notre humanité a avancé, c'est indéniable. Hein. Les débats en cours le prouvent. Les secteurs de réflexion collective deviennent nombreux, que ce soit les problématiques environnementales, l'égalité homme-femme, le respect de la sexualité et du mode de vie de chacun, la défense des populations opprimées, la lutte contre la désinformation, pardon, les conditions de travail et de rendement, les modes de consommation, bref. Tout cela conduit au fait que nous allons vers une prise en compte progressiste de l'organisation de notre société, une considération politique, finalement, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la vie de la cité. Donc, tout est politique. Pourtant, beaucoup encore sont réactionnaires par rapport à ces questions politiques. Mais pourquoi ? Alors, ma théorie, et elle est personnelle, elle n'engage que moi, est celle de la peur. À l'instar de certaines autres espèces animales qui réagissent par l'agressivité dès que les individus croient percevoir une menace, notre espèce compte elle aussi des individus agressifs et terrifiés. Et je parle d'une forme de prédation sociale et économique, c'est-à-dire que, comme la plupart des animaux, nous nous comportons en fonction d'un instinct de survie et d'engrangement au cas où. Mais au cas où quoi ? Hein, finalement. Là encore intervient la peur. Exemple, j'accumule des milliards au cas où je ne pourrai plus le faire un jour, au cas où mes futures générations ne sauraient pas se débrouiller pour survivre, au cas où on voudrait venir me voler quelque chose. Donc j'ai envie de dire, quel manque de confiance en ces individus qui me sont pourtant si proches. Parce que là, c'est considéré que soit sa descendance n'est bonne à rien, soit tout le reste de l'humanité, c'est des enfoirés. Mmh. Voilà. Donc, j'ai envie de citer un célèbre philosophe dont je ne dirai pas le nom parce que mon but, c'est pas de faire de l'élitisme culturel. Mais seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que là, je parlais de façon d'agir, de groupe, et enfin, quelque part, d'idées qui sont partagées. Mais aussi parce qu'il ne faut pas confondre l'individualisme, qui n'est pas le fait d'être égoïste, voilà, qui se rapproche de l'égoïsme au sens entendu de nos jours, mais qui ne l'est pas forcément, qui est une façon d'appréhender l'individu, et l'individualité, qui est une personne dans son entièreté, finalement dans son identité propre. Mais, là encore, il ne faut pas confondre les individus et l'identité à laquelle ils semblent appartenir, c'est-à-dire à laquelle ils sont assimilés, et souvent contre leur gré, puisqu'on ne peut pas être une seule chose comme ça. Donc les humains se réunissent tous différents sous un même drapeau pour être plus forts ensemble, pour aller plus loin, mais dès que l'identité devient emprisonnement, les individus deviennent oppressés et stigmatisés et n'avancent ni vite ni loin. Il y a parfois ces cas de peur dont on a parlé, mais il y a aussi d'autres personnes qui décident de ne pas avoir peur. Alors, l'homme est-il un loup pour l'homme? Encore une référence pour les pseudo-intellectuels. Pardon, je suis désolée. Est-ce que si l'homme était un loup pour l'homme, ça justifierait de choisir de rentrer dans un cercle vicieux d'agressivité? Eh bien, personnellement, en tant qu'individu, je refuse d'être un prédateur pour mes congénères. Bien évidemment, je veille à ma sécurité, à la satisfaction de mes besoins et de ceux de mes proches, mais je veux et je choisis de le faire sans porter atteinte à l'intégrité morale, sociale ou physique de quiconque. J'entends qu'on me respecte en tant qu'individu pensant et capable, et j'entends respecter les autres pour ces mêmes raisons. Alors quoi ? Eh bien, il y a un choix à faire aujourd'hui. Nous avons la technologie, la philosophie, les moyens de partager librement tout cela. Je rappelle qu'Internet existe maintenant depuis un petit moment. Et nous avons la méthodologie, finalement, du progressisme et de l'ouverture d'esprit, la méthodologie de la lutte contre l'oppression. Et sans me positionner en tant que missionnaire d'une idéologie, c'est-à-dire que je n'imposerai pas quoi que ce soit à qui que ce soit, j'affirme qu'on a quand même les moyens de partager tout ça. Et en effet, pourquoi j'insiste sur le fait de partager ? Parce que les évolutions à grande échelle passent par l'information au sens général, autrement dit par l'éducation, et surtout par l'éducation non orientée, donc la transmission, la diffusion pure de réflexion, ce que certains appellent la démocratisation des savoirs et des techniques. Donc voilà, j'ai repris ce mot un peu barbare qui a tendance à susciter le débat aujourd'hui, mais oui, c'est le fait de diffuser au plus grand nombre et avec le moins de restrictions possibles. Et il faut peut-être aussi commencer à voir que tout le monde n'est pas stupide, tout le monde n'est pas con, que beaucoup de personnes, d'individus savent trier l'information, la traiter, reconnaître si elle est orientée ou non et s'en servir. Donc les combats comme par exemple le féminisme, la lutte LGBTIQ, la lutte salariale, la défense des peuples et des individus opprimés, la préservation des écosystèmes, la lutte contre la consommation outrance et le capitalisme sauvage, la lutte contre la monétisation du sexe et des idées, l'évolution technologique responsable, la lutte pour la diffusion totale de la culture et des connaissances et contre la désinformation, tous ces combats sont essentiels mais ne sont pas une fin en soi. C'est-à-dire que la visée de ces combats, c'est d'arriver à un monde meilleur pour tous et toutes, quel que soit notre genre, notre origine sociale, géographique, culturelle, politique, etc. Alors voilà, il est là le choix à faire. Vais-je contribuer à faire évoluer mon monde de manière humaniste, c'est-à-dire humaine et progressiste, ou vais-je tenter de tirer parti de mon monde de manière prédatrice ? Mais moi j'ai envie de dire, et c'est là que je vais être un petit peu menaçante, rappelez-vous que si jamais vous voulez devenir un loup, déjà vous ne serez pas forcément le plus fort de la meute, vous vous exposez aux dangers que représentent les autres loups, alors que si vous voulez rester humain, grâce à toutes nos superbes évolutions que je viens de citer, il sera toujours possible de discuter. Donc c'est à nous de choisir, c'est-à-dire toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Et je dis ça en plaisantant, mais voilà, c'est un vrai choix, c'est un vrai positionnement. Et aujourd'hui, plus qu'hier et sûrement demain encore plus qu'aujourd'hui, etc. À un moment donné, il va falloir choisir de quel côté on se situe de l'évolution.
Bah merci. J'espère juste que tu n'as pas choisi Grégoire comme musique après.
Non.
Parce que sinon, je pense que je n'y arriverai pas.
C'était pour apporter un peu de légèreté à tout ça.
Mais bah, on met un peu de musique justement, musique. Et qui colle bien à ton sujet d'ailleurs, écoutez les paroles.
Ouais.
Les valables, ciao les gonflants. Revoir la Massilia qui vient montrer les dents. Y'aura pas de blablabla, y'aura pas de faux semblants. En un mot commençant, y'aura pas d'arrangement. Beaucoup trop d'humains pensent à niquer l'offre. Pourquoi tant de requins? C'est un mystère. Avec tous ces tordus, y'a qu'un comportement. On va les tous caguer, y'a pas d'arrangement. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Ou tu fais le mort ou tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Avec les pépounas, avec les amoucans, avec les fatigants.
Y'a pas d'arrangement.
Avec les trous du cul qui cachent leur accent. Avec les frais chinois,
y'a pas d'arrangement.
Avec
tous les cravatés qui se font du beurre en abusant les gens.
Y'a pas d'arrangement, ceux qui parlent toujours de race supérieure, qu'ils soient noirs ou blancs. Y'a pas d'arrangement, d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Où tu fais le monde, où tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Le conducteur nous dit, il faut un tube maintenant. C'est marqué dans le contrat, ma signa, je perds de l'argent. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai soudoyé des tas de gens. J'ai acheté les radios, les télés, les journaux. Et pourtant, j'ai toujours pas de feedback, j'ai toujours pas de rendement. Faites un truc commercial, les 100% dans le banc. Je ne vous le dirai plus, bougez-vous le cul, les enfants. La réponse, c'est bon, il n'y a pas d'arrangement.
Non, 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 d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Où tu fais le mort, où tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Pour tomber les petits, pour jouer les galants. Au raga ballet, il n'y a pas d'arrangement.
À niveau de champion ou à l'entraînement.
Y'a pas d'arrangement.
Pour rencontrer des gens, parler pendant des heures dans la rue, le quartier.
Y'a pas d'arrangement.
Pour avoir des idées, rendre la vie meilleure partout dans ta cité.
Y'a pas d'arrangement. Non, 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 d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Où tu fais le monde, où tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Vas-y, Nino, que la Yoli soit avec toi. Plus tu te boulègues et plus tu te boulègueras. Pas de petit profil, non, 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 pas de petit combat. Si tu hésites, les conos n'hésiteront pas.
C'est un conseil pour les petits et les grands. C'est une idée qu'on a mûri pendant longtemps. Quand ça te plaît pas, il faut prendre les devants. Et savoir dire non, il n'y a pas d'arrangement.
Non, 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 d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Où tu fais le mort, où tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Non, non, non,
d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Où tu fais le mort, où tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Non, non, non,
d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement.
Et c'était donc Massilia Sound System avec pas d'arrangement. Donc si vous avez pas tout compris aux paroles, c'est pourtant du marseillais, hein, ça ressemble très proche, c'est très proche du français. Et non, ce n'est pas Zebda. Et donc les brèves ce soir.
Tintintintin. Eh ben. Une brève, enfin deux, mais une en dehors de l'émission. Toujours la permanence juridique d'aide aux sans-papiers, qui est tous les lundis soirs de 18h30 à 20h30 à la Lutine, 91 rue Montesquieu, 69007, Lyon, donc dans le 7e. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide ou si vous avez, connaissez des sans-papiers qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à les rencontrer, ces juristes. Et Jean-Yves ?
Et bah, le deuxième rendez-vous, bah, c'est la causerie, dis donc. C'est la semaine prochaine, 22h, 23h, tous les dimanches. Et la semaine prochaine aura lieu l'émission avec l'association Shams. Elle devait avoir lieu la semaine dernière pour des raisons de santé, etc. On va pas tout forcément vous étaler ici, mais elle a pas pu avoir lieu. Donc c'est la semaine prochaine qu'on recevra l'association Shams. Pour celles et ceux qui nous ont pas écoutés entre temps, je vous fais une petite retape. Donc Shams France, c'est l'association LGBTQI des personnes maghrébines et moyennes-orientales vivant en France. Shams France écoute, oriente, accompagne, soutient. Shams France est née de la volonté d'aider les LGBTQI maghrébins et moyennes-orientaux, qui vivent en France ou dans leur pays, et cette aide passe par de l'accueil, de l'écoute, de l'orientation, notamment pour les réfugiés. C'est aussi, Shams est aussi un relais en matière de prévention, VIH et IST. Et Shams France alerte et sensibilise les autorités françaises et européennes sur la situation des LGBTQI dans la zone MENA et aussi pour la lutte, en tout cas pour la dépénalisation de l'homosexualité dans ces pays. Donc voilà, et l'association Shams réunit et anime aussi cette communauté grâce à une coopération étroite avec les associations LGBTQI françaises. Et ben voilà, donc le rendez-vous est donné, hein, c'est la semaine prochaine, on sera avec Yad et peut-être une autre personne, on verra bien. Et donc, ben voilà, ce sera à 22h.
Sur la...
Radio Canu, pardon. Sur la radio.
Dans la cause.
Sur la radio que tu écoutes là maintenant.
Oui, la même,
au même endroit, tu reviens dans une semaine à 22h.
Je reviens pas, laisse allumer.
Oui, voilà, tu la laisses allumer toute la semaine pour être sûr.
Ah oui,
la
n'arrêtez jamais votre poste avec Radio Canu. Attends, attention.
Pourquoi
faire ça? Ah ouais, attention, faire gaffe quand même. On vous surveille.
On a des yeux dans ça les enceintes.
Donc voilà, rendez-vous est donné. Ouais. Et puis ben, on se quitte avec.
Canal Saint-Martin des Fatal Picard.
Voilà, tu disais que parce que c'était que tu voulais montrer que les Fatal Picard, ils faisaient pas que des chansons drôles.
Voilà.
Voilà, ils font aussi des chansons engagées.
Des chansons un petit peu plus, ouais.
Ouais. Et moi, je voulais juste te dire un truc, n'allez pas voir alibi.com. Voilà. Et des bisous à la semaine prochaine.
Bonne semaine, bonne nuit, tout ça.
Bonne semaine, gros bisous.
Ciao, ciao.
Et
ciao.
N'oubliez pas de choisir.
C'est vrai. Ciao. Ciao.
J'habite en plein cœur de Paris, au bord du canal Saint-Martin. Un rez-de-chaussée quai de Valmy, sans balcon ni petit jardin. C'est pas la mer malgré les mouettes, la pointe du rat sans les embruns. Faut savoir faire des sacrifices quand on veut rester parisien. Douze mois par an, je suis au grand air, au bord du canal Saint-Martin. Je regarde passer les amants et les pigeons main dans la main. De la fenêtre de ma chambre, je compte les touristes sur les bateaux. J'oublie une heure que je vis autant au bord du gouffre qu'au bord de l'eau. Moi j'aimerais bien pouvoir me battre en Espagne contre des moulins. Pourvu que je sois Don Quichotte, pourvu qu'il y ait des moulins. Sous un soleil qui vaut de l'or, avec la mer qui campe au loin, poussant ses vagues au creux d'un port, très loin du canal Saint-Martin. J'ai une jolie tente en plastique au bord du canal Saint-Martin, plantée sur des pavés sans plage, avec un campeur pour voisin. J'aurais peut-être pu faire flic, je suis pas chômeur à ce point. En tout cas pas homme politique, j'aurais peur de blesser quelqu'un. Je suis parfois illusionniste, une espèce de magicien. Lorsqu'en hiver il fait trop froid, je souffle doucement sur mes mains. Dans la fumée des caméras, les journalistes du Parisien, la poudre aux yeux pour pas finir au fond du canal Saint-Martin. Moi j'aimerais bien pouvoir me battre en Espagne contre des moulins, pourvu que je sois Don Quichotte, pourvu qu'il y ait des moulins, sous un soleil qui vaut de l'or, avec la mer qui campe au loin. Poussant ses vagues au creux d'un port, très loin du canal Saint-Martin. J'habite en plein cœur de Paris, au bord du canal Saint-Martin.
Un rez-de-chaussée quai de Valmy,
sans balcon ni petit jardin.